À 17h22 à Boulevard 102.1, on a de la visite. La visite qu'on a mis en retard un peu, si je suis bien honnête.
Le soleil?
Oui, ça c'est effectivement un pan de visite qu'on attendait depuis un bout. Déjà, ça commence à se pointer, t'as raison. En passant, peut-être vous dire que ce soir et cette nuit, on va être autour de 16 degrés. Demain, 25, gros soleil. 16 en soirée, gros soleil. La pluie qui devrait être de retour jeudi, mais on n'en parlera pas, OK, parce que c'est soleil vendredi aussi. Fait que je crois à la rédemption de Dame Nature, si elle a envie de donner un petit coup de pouce. Là. Non, je parlais de Sam Tremblay-Michaud. Si vous avez des questions automobiles, c'est maintenant que ça se passe. Samuel Tremblay-Michaud, qui est chroniqueur automobile à RPM, journaliste automobile aussi. On a des petits sujets d'actualité, évidemment, à traiter, mais ce ne sera pas long qu'on va répondre à vos questions, qu'ils soient plus générales, plus pointues. Donnez-moi une chance avec les noms de véhicules, là, je ne suis pas meilleur, là. Mais Sam, généralement, comprend bien. Sam, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Là, tu reviens d'une semaine de tournage, toi, là.
Oui, on tourne durant l'été les segments routiers de l'émission RPM. Deuxième bloc qui est fait, ça avance bien, on retourne sur la piste d'accélération à Charlevoix avec nos véhicules, une demande de nos fans qui voulaient vraiment qu'on retourne sur la piste. Donc, bien content d'animer la prochaine saison et d'inclure ce retour-là.
C'est combien comment ça marche vos tournages? Parce que t'es là, mettons, pour la semaine là, ou pour une couple de jours. Fait que c'est-tu pour une émission seulement?
Tournage de deux semaines. Faut savoir qu'on tourne RPM à Québec, dans les studios de Québec. Donc ça, c'est fait par une équipe de caméramans, de gens de son de la ville. C'est vraiment trippant. Et une fois que tout ce qui est en studio est fait, que la recherche est bien faite, là, ensuite, on s'en va toute l'équipe à Charlevoix. Et là, on va passer une semaine là-bas à tourner ce qu'on a besoin de faire sur la route. Des bonnes semaines, de grosses journées, beaucoup de plaisir, une équipe extraordinaire.
Plate, hein?
Non, non, c'est vraiment le fun. Mais c'est très exigeant. Des fois, on le voit pas, mais c'est beaucoup de travail, mais c'est tout fait ici. Puis je suis très fier de ce qu'on va vous présenter pour la prochaine saison.
Très hot. Le premier sujet qu'on veut traiter ensemble, tu m'as pas donné beaucoup de détails, mais j'ai vu tantôt que tu as fait des médias sociaux sur le sujet.
Yes.
Tu travailles un dossier concernant en ce moment le Nissan Leaf.
Oui, le VUS Leaf, que Nissan appelle un VUS, mais c'est une voiture, là. Honnêtement, là, c'est une voiture surélevée, une traction. On a sorti une nouvelle génération pour 2026, véhicule qui était attendu vraiment. Ça fait du bien, Nissan, d'ailleurs, un bon coup de jeunesse. Et les chiffres sont bons. On a vendu 1395 Leaf durant le deuxième trimestre de l'année seulement. Donc, un bon succès commercial jusqu'à maintenant pour le constructeur quand même. On a quand même un début qui est un peu laborieux parce qu'on a fait déjà un arrêt des ventes il y a quelques mois par rapport à un problème de batterie haute tension. Ça ne touchait pas l'ensemble des unités du Nissan Leaf. Ça touchait quelques unités. Et là, on a remis un nouvel arrêt des ventes sur ce véhicule-là qui vient tout juste de tomber. J'ai eu l'information par des contacts dans le milieu qui m'ont quand même appelé aujourd'hui pour m'annoncer ça. J'ai fait des vérifications avec Nissan Canada qui, du bout des lèvres, m'ont annoncé que c'était vrai. Finalement, m'ont envoyé un communiqué complet pour me dire « c'est vrai ».
Mais pourquoi, mettons, qu'est-ce qu'on fait si on en a un, là?
Il faut savoir qu'il faut distinguer un rappel et un arrêt des ventes. Un rappel automobile, c'est souvent qu'il y a une raison de sécurité derrière un problème sur le véhicule qui peut être lié à des coussins gonflables, des choses comme ça, qu'on va émettre un rappel pour régler le problème. Les véhicules peuvent continuer à être vendus et souvent, quand on amène les véhicules dans les concessionnaires, c'est qu'on a déjà effectué le rappel au préalable.
À ne pas confondre non plus avec un rappel au Festival d'été de Québec où là, on en redemande davantage. Là, c'est pas ça. Là.
Non, c'est pas ça.
On avait le moins possible des rappels automobiles.
On les évite au maximum dans l'automobile. Et là, dans le cas d'un arrêt des ventes, c'est que c'est le même principe qu'un rappel, ce qui veut dire qu'il va y avoir un rappel qui va découler de ça, sauf qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour réparer le problème et donc les véhicules qui arrivent en concession ne peuvent pas quitter le concessionnaire. Donc, si, exemple, vous avez acheté un Nissan Leaf dans la dernière semaine, vous l'attendez pour la fin de la semaine cette semaine, je n'en reste pas une nouvelle pour vous, mais ça n'arrivera pas là.
Oh, OK, fait que les contrats sont brisés aussi.
Les contrats sont brisés, seront simplement retardés, mais on ne pourra pas vous livrer officiellement le véhicule. C'est relié à un problème de sécurité avec les ceintures de sécurité à l'arrière, la deuxième rangée. On n'a pas expliqué exactement c'est quoi l'enjeu, mais il y a clairement un problème avec le rétracteur à verrouillage automatique qui pourrait se désactiver. Ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, on a besoin d'avoir une ceinture qui se rétracte rapidement pour tenir le corps de la personne en place lors d'un impact.
Quand ça bloque, ça gosse. Là.
Exact, mais c'est pour votre sécurité. Ouais. Ben, ça le ferait peut-être pas. Donc, okay. On semble avoir un problème avec ce système-là. C'est majeur. Nissan n'a pas trouvé encore la solution.
Puis là, mettons là, que moi, j'en ai un, puis ça marche pas, puis tout, ils vont faire un rappel, j'imagine.
Ça, c'est stressant pour les gens qui en ont. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, Nissan semble vouloir faire un rappel volontaire. Donc, le constructeur va probablement rappeler, selon moi, l'ensemble des livres 2026 qu'on a vendus dans la dernière année pour les faire retourner au concessionnaire. Il n'y a pas d'action à prendre tout de suite. Si vous êtes propriétaire d'un Nissan Leaf, vous m'écoutez actuellement, partez pas en panique. On va vous contacter par courrier. On va vous envoyer une lettre pour vous annoncer qu'il y a un rappel sur votre véhicule. C'est pas encore fait. On n'a pas encore envoyé les lettres non plus. Ça ne sera pas tout de suite. Mais clairement, il va découler un rappel de cette situation-là. Ça sera à suivre. C'est dommage pour Nissan, un véhicule véhicule qui connaît justement un bon succès et qui, malgré tout, avait fait du bien à la marque en termes de renouvellement. Mais malheureusement, ça arrive dans les premières versions des modèles. Souvent, on a des bobos de même. Oui. Puis quand ça touche la sécurité, il n'y a vraiment pas de risque à prendre.
On entend souvent ça. On va attendre une couple d'années. Là,
On est les premiers à le faire. Puis à vous le dire, je le répète à peu près 50 fois par jour durant l'émission de télé, mais ça vaut vraiment la peine de prendre du temps. T'sais, des fois, on est emballé, on a envie, un nouveau véhicule arrive, il nous tente, il a l'air de répondre à nos besoins, on a envie de prendre un risque. Mais c'est ça. Ça vient aussi avec ce fardeau-là de devoir porter.
Des possibles citrons.
On a déjà des questions qui rentrent. On a une question de Mathieu qui demande, c'est quoi le meilleur VUS compact pour le prix? Il me dit style Crosstrek.
OK, là, on est dans le sous-compact. Quand on parle de Crosstrek, c'est une catégorie un petit peu plus petite que les Toyota RAV4. Si on garde Subaru, on pourrait parler plus du Forester. Le Crosstrek est vraiment une option très intéressante dans le marché. Pas le moins cher, mais qui offre une très bonne valeur. Si vous voulez un produit qui conserve bien son statut sur le marché, un produit qui va être très recherché dans l'usager aussi.
Puis il vieillit pas, on dirait.
Subaru Crosstrek, c'est vraiment un choix très logique pour le Québec. Moi, je l'ai affectueusement appelé Capitaine Québec dans mon article que j'ai fait sur ce véhicule-là. Parce qu'il est taillé sur mesure pour nos routes, pour nos conditions. Donc, c'est un choix intéressant. Dans la même catégorie des sous-compacts, je pense aussi au Toyota Corolla Cross, qui est un produit qui m'a surpris, surtout en version hybride conduite, qui est surprenante pour Toyota quand même, bien planté au sol, une valeur de revente à tout casser, et bien évidemment, la consommation de carburant qui va venir avec, qui va être très, très faible. Donc, un produit bien intéressant. Puis, je termine avec peut-être le duo coréen Kia Seltos, Hyundai Kona, deux produits sérieux. D'ailleurs, cette semaine, au Lac-Beauport, ils font le lancement officiel du nouveau Kia Seltos 2027. Je vais assister à l'événement. On fait un lancement pan-canadien ici, dans la ville de Québec. Je trouve ça le fun de le dire. Et on va, dans le fond, dès demain, vous allez peut-être en voir sur les routes. Là. Il y a plein de journalistes qui vont rouler avec les Kia Seltos 2027 de Kia Canada pour faire les essais routiers. Je vais pouvoir vous en reparler de mon essai complet le 21 juillet, donc c'est très bientôt.
C'est rare des événements de même à Québec?
Et écoute, c'est drôle, cette année, c'est mon deuxième. Toyota a fait un événement comme ça, il n'y a pas longtemps, au Lac-Beauport aussi. Puis j'ai déjà fait un événement avec Chevrolet qui a fait un road trip à Charlevoix. Mais ça, c'est vraiment des programmes nord-américains quand même. Il y a du monde comme du Texas qui arrive.
C'est hot.
C'est bien pour la ville. Je trouve ça vraiment intéressant.
Autre question avant de passer au deuxième sujet. Santa Fe 2024, vert mat. On est très précis.
Oui.
Un peu monté pour le bois. Est-ce que je me sauve ou c'est pas pire?
Ah, c'est cool, go, allez-y, il n'y a pas de problème. Là. J'imagine que c'est une version 2.5 litres turbo, c'est pas une version hybride, parce qu'on avait le vert olive dans la version hybride, qui est un vert métallisé, que le vert avocado, que je trouvais magnifique. Et dans la version hors-route XRT, c'était plus une version, je pense pas que c'était encore un XRT, là, mais on avait un vert mât, effectivement. Moi, personnellement, le 2.5 litres turbo, je l'aime moins que la version hybride. Si vous aimez le Santa Fe, je vous encourage fortement à aller vers la variante hybride, beaucoup plus intéressant comme machine. J'aime pas la transmission double embrayage de la version turbo 2.5. Peut-être un petit peu moins fiable aussi à long terme. Peut-être un produit que je regarderais de loin, si très beau, là, mais allez chercher l'hybride si vous êtes capable. Puis si jamais c'est une question de préférence, ben allez-y quand même parce que ça reste un produit pertinent.
Deuxième sujet qu'on veut faire avec toi, Sam, avant de faire, mettons, les questions en rafale, là, c'est les véhicules connectés chinois. Est-ce que c'est pire pour la vie privée que les autres? On dirait qu'il y a ce mythe ou réalité à
les
toi
méchants
de me
chinois.
Le dire.
Ouais.
Les renseignements personnels, les compagnies. Je ne sais pas à quel point c'est devenu problématique dans l'industrie automobile, mais j'ai vu que vous avez fait un texte là-dessus sur le rpmweb.ca.
Ouais.
J'ai trouvé ça super intéressant.
Oui, c'est intéressant. C'est une question du public que je répondais d'ailleurs parce que je suis bien impliqué dans l'histoire des partages de données. On a plusieurs études qui ont sorti dans les dernières années pour prouver que la voiture connectée est la bébelle et le bien de consommation qui est les plus grandes failles en termes de sécurité personnelle. C'est pire que votre cellulaire. Je sais que les gens vont dire nos cellulaires sont dans nos poches, blablabla. La voiture connectée, il y a une perte de contrôle dans la donnée qui est collectée, puis ensuite les constructeurs peuvent les revendre à qui bon leur semble. Donc, ceci dit, vous me voyez venir, les voitures chinoises, est-ce qu'elles sont pires dans cette manière-là? Pas du tout. Même GM a déjà vendu, puis s'est fait taper sur les doigts il y a quelques mois. Aux États-Unis, on ne pourra plus vendre même des données pendant 5 ans. Il y a 12 millions d'amendes qui ont été demandées à GM pour avoir vendu des centaines de milliers de données personnelles à des tierces parties sans le consentement des propriétaires. Donc ça, c'est bien complexe. La seule chose qu'il faut mettre en évidence, par contre, avec les véhicules chinois, c'est qu'il y a une différence en termes de législation. C'est que la Chine peut demander aux constructeurs automobiles, sans aucune raison valable, de récolter les données qu'on va avoir accumulées via les voitures connectées. Donc, il y a comme un élément législatif là-dessus qui est un petit peu plus épeurant avec les véhicules
chinois.
Dans
ma tête, on dirait que c'était logique que ce que tu fait que ton char ou quand tu te connectes, ou dans ma tête, tout ça, c'est facile, puis tu redonnes, tu sais, tu comprends?
Ouais, mais
dans ma tête, c'est logique qu'il me semble, Christy, tu récoltes pas les données, on n'arrête pas de dire que c'est pas bien.
Pas du tout, au contraire, même que plus que jamais, on enregistre vos habitudes de conduite, vos déplacements, la géographie, les caméras embarquées sur les véhicules, les caméras 360 qui ont déjà été utilisées pour des enquêtes criminelles, on a réquisitionné des caméras pour voir des photos de véhicules. Et où la ligne? Et où la limite? Comment on peut contrôler ça? Ça commence à être un petit peu épeurant, tout ça. Et bien, la Chine, c'est ça l'enjeu, c'est surtout une question aussi de sécurité. Les problèmes avec l'espionnage ou ces choses-là. Là, on met ça beaucoup en évidence avec le gouvernement chinois. Fait que c'est un peu un flou qui persiste avec la capacité du gouvernement chinois à aller chercher les données des constructeurs de manière unilatérale. C'est à surveiller. Donc oui, il va y avoir des différences là-dessus, puis clairement, il va falloir mettre des lois entourant ça. Maintenant, est-ce que ça va être respecté? Est-ce qu'on va être dans un cadre sécuritaire? Ça sera à suivre.
Je t'amène vraiment ailleurs. Alors, on a une question d'un auditeur. Je voudrais faire un traitement anti-rouille sur mon Kia FEV. Est-ce que ça se prononce comme ça? Je l'ignore.
Ou FEV. Hein,
ça serait PHEV.
PHEV.
Mais on peut dire FEV, c'est sympathique.
Mais le concessionnaire m'a dit que la garantie allait tomber. Quelles sont mes options?
J'adore ça parce que je viens d'écrire un texte d'opinion
c'est
là-dessus.
C'est vraiment ironique, ça.
V'là comme quelques semaines par rapport aux antirouilles. Dans le fond, la vraie réponse, c'est non. Votre antirouille ne va pas annuler votre garantie anticorrosion. Faut savoir que c'est un peu comme n'importe quelle réparation que vous pourriez faire sur votre véhicule. Si, exemple, vous changez vous-même, je ne sais pas moi, le radiateur du véhicule, il y a un problème ensuite avec cette pièce-là et que vous essayez d'avoir la garantie pour couvrir la perte d'un bien, bien là, on va vous dire, bien là, tu sais, c'est pas le radiateur d'origine, il y a des erreurs qui ont été faites dans la manipulation, nous, on ne peut plus garantir cette pièce-là. Ceci dit, si, exemple, vous avez remplacé votre radiateur, mais que votre système anti-pollution sur votre véhicule explose, il est encore garanti, lui, parce qu'il n'y a aucun lien connexe entre les deux, puis ça ne peut pas avoir impacté la garantie complète du véhicule. L'antirouille, c'est le même principe. Quand on applique un traitement anti-rouille en tant que tel, si l'application se fait par des garages professionnels ou des marques connues d'anti-rouille un peu partout qu'on a dans la région de Québec, il n'y a pas de danger.
C'est pas problématique.
Pas du tout. Il faudrait qu'on prouve que le traitement anti-rouille ait nuit à la garantie de votre véhicule ou qu'il ait créé de la rouille ou il faudrait que le concessionnaire ou que la marque vous poursuive en prouvant que vraiment le traitement anti-rouille... Oubliez ça. Là. C'est une histoire qui n'arrive pas. Dieu. C'est trop compliqué pour rien. On veut vous
Mais
faire peur.
Dire ça?
Parce qu'on veut vous vendre l'anti-rouille directement au concessionnaire.
Voilà.
Donc, allez magasiner l'antirouille que vous voulez.
Je trouve ça croche.
Prenez l'antirouille que vous voulez et ne prenez surtout pas un antirouille électronique. Je vous en supplie. Ça n'existe pas pour vrai une solution miracle comme ça. Achetez-vous un antirouille graisseux, huileux, n'importe laquelle compagnie que vous connaissez dans la région de Québec, que vous faites confiance. Allez voir un garagiste de confiance, mais vous êtes capable de choisir vous-même l'antirouille pour votre véhicule et ce, peu importe. Si jamais vous voulez avoir des preuves, là, allez voir mon texte, pour vrai, rpm1.ca. Il y a des avocats qui ont écrit là-dedans. J'ai des preuves de constructeurs automobiles.
Mais
montrez ça à votre concessionnaire.
Pourquoi les concessionnaires ne nous disent ça? Je comprends pas.
Ben là, c'est de l'argent, Audrey. Là,
mais là, c'est de l'argent, mais oui, mais c'est aussi une mauvaise réputation.
Ouais,
mais c'est...
Moi, je
trouve que
c'est assez pour changer de concessionnaire la
ben,
prochaine
sérieux?
Fois. Là.
C'est ça le problème. Alors, c'est les gens, est-ce qu'ils sont tous au courant? Est-ce que les gens font toutes ces démarches-là? Pas nécessairement, mais c'est pour faire de l'argent. Là. Il y a
non,
pas
mon
plus.
Dieu, ça
c'est malhonnête un peu.
OK. Pour les véhicules usagés, on parle de la longévité des batteries. Qu'en est-il au niveau des véhicules hybrides? Est-ce que c'est un point à considérer? Je songe à racheter un Toyota Prius Prime 2022 l'année prochaine suite à une fin de location. Est-ce que c'est une bonne idée?
Ça peut être une très bonne idée. Ce que je vous invite à faire, c'est une inspection complète. On peut mesurer l'intensité et la capacité de votre batterie encore. Donc, est-ce que votre batterie est encore fonctionnelle? Est-ce qu'elle a encore beaucoup d'autonomie? On peut la tester au même titre qu'on peut tester un téléphone intelligent et puis savoir la performance de la batterie du téléphone. Donc, je vous invite juste à faire l'inspection, savoir si la batterie est encore en bon état. Mais théoriquement, un véhicule qui a 4 ans devrait encore avoir une batterie bien fonctionnelle.
Hey, catégorie petit pick-up de ville.
Oui.
Un Maverick Ford.
Yes.
Ou tu recommandes plutôt d'autres marques pour
non,
ce genre de véhicule?
Non, un Ford Maverick, moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup la version hybride. Je tiens à le préciser, le moteur de litre turbo ne m'a pas du tout convaincu dans ce véhicule-là. Contrairement au 2.5, beaucoup plus doux, vraiment plus agréable à conduire. On a sorti en 2025 également la version 4 roues motrices du hybride. Vraiment agréable pour nos hivers aussi. Donc ça, c'est un produit que je recommanderais. Seule chose à savoir toutefois, c'est que Ford a l'air d'avoir de la misère encore énormément avec leur qualité et leur contrôle. Beaucoup de rappels chez Ford. On a des rappels... Honnêtement, j'ai même pas de mots pour dire à quel point ça pue de bon sens la quantité de rappels que Ford a mis sur ses véhicules dans les dernières années. Donc ça m'inquiète un peu pour la qualité du véhicule. Après ça, quand les rappels sont faits, ça va bien. C'est un produit qui, dans sa catégorie, demeure très convaincant. Mais sachez que le constructeur Ford se porte pas à merveille actuellement. Donc ça se peut que vous ayez quelques petits bobos de départ, puis des rappels et des ci et des ça qui viennent avec ça.
Je t'en pose deux en une, OK? Là, c'est deux modèles, puis on se demande qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le Honda Redline 2026? 2026 et Polestar 4 2026.
Bon, c'est deux modèles, le Polestar 4, puis on a le Ridgeline également chez Honda. Ridgeline qui a été arrêté de produire présentement. On était vraiment en arrêt de production pour 2 ans. Bizarre de stratégie de Honda. On veut revenir avec une nouvelle génération de ce véhicule-là qui devrait arriver plus au tournant de 2028. Pour le moment, on va écouler qu'est-ce qu'on a s'il reste des Ridgeline. C'est pas des produits qu'on a eu en grosse quantité avec les problèmes tarifaires qu'on a connus dans les dernières années. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à part soyez patient si vous désirez vraiment avoir un Ridgeline. Et même là, ça va être une nouvelle génération. On parle d'une mécanique hybride potentielle. Beaucoup de questions à soulever par rapport à ça. Donc, je voudrais rester prudent sur le Ridgeline. Pour le Polestar 4, c'est un produit qu'on a vu, qu'on a pu essayer, qui devrait tranquillement être disponible également en concession. Maintenant, Polestar connaît plusieurs problèmes, viennent de quitter les États-Unis, se sont fait bannir des États-Unis pour des problèmes d'espionnage. Donc, Polestar s'en va et ça va faire certainement écho au Canada. Donc, c'est deux modèles que vous regardez qui sont sur le respiratoire artificiel ou c'est un peu compliqué actuellement.
Je termine avec une dernière question, Sam, je vois le temps filer. Je pense que la prochaine fois, la semaine prochaine, on sera peut-être une chronique que des questions parce que les auditeurs en ont énormément puis visiblement, tu as les réponses. Il y a Jay qui nous dit, ce serait quoi l'équivalent d'un, 1.9 TDI 2000-2004 dans les véhicules d'aujourd'hui.
Bonjour Jay. Premièrement, c'est l'époque glorieuse de ces TDI-là. Il n'y a rien qui équivaut à ça en termes de sensations, de mécanique, d'odeur. C'est des moteurs mythiques quand même chez Volkswagen. Si on veut vraiment parler plus d'autonomie, parce que c'était vraiment pour ça qu'on les choisissait, c'était économique sur la grande route, des vrais tanks, ces petits moteurs-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de tourner vers l'hybride, si vous voulez avoir quelque chose comme ça. Quand je pense à un Honda Civic hybride, mettons, là, c'est une mécanique qui va vous donner beaucoup d'autonomie pour l'argent qu'on va mettre dans l'essence, mais ça ne sera jamais la sensation de ce TDI-là. C'est presque impossible à trouver. Exactement. Il n'y a pas d'équivalent à ça. C'est assez niché. Malheureusement, ça n'existe plus. Il faut se tourner vers des mécaniques alternatives pour réussir à atteindre le même genre d'autonomie.
Bon, Sam, toujours un plaisir. Je vois les textos qui continuent d'entrer. La semaine prochaine, on va vraiment faire en sorte de garder vos questions. On mettra même ça au pire sur les réseaux sociaux là, pour en prendre un peu peut-être d'avance puis se prendre un bon 20 minutes. Là, je vois le temps qui file. Merci de prendre le temps passant. C'est drôle, la semaine passée, mon père a décidé qu'il utilisait Sam. Là.
Oui!
Là, il est comme dans un gros dilemme de troc en ce moment. Là. Ça, c'est le rêve de sa vie. Là.
Comment ça se passe?
Il est toujours en grand dilemme. Là, et...
fait c'est pas réglé.
Je lui ai envoyé ton message. Là, il y a plein de modèles, il sait plus quoi faire.
Mais tu m'écris, on s'en reparle.
Bon, on s'en reparlera à ce moment-là. Je pense que je vais vous mettre en contact, ça va être facile.
Très bonne idée.
Jay te fait dire merci, on se parle la semaine prochaine.
Sans faute.
Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, vous le retrouvez sur sa page Facebook qui porte le même nom, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile. Et vous pouvez le lire sur le rpmweb.ca également. On revient dans les prochaines minutes. Max a un dossier pour nous concernant, je dis le Festival d'été de Québec, mais tu sais, quand on va au FEC ou dans n'importe quel festival, en fait, il y a toujours les vendeurs de bière qui semblent un peu indépendants. Ils se promènent avec des caisses à la tête, là. Il a parlé avec un de ces vendeurs-là. J'ai l'impression que ça va être intéressant. On se retrouve dans quelques instants. Boulevard.
Le retour de Boulevard. La Raye.